Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les manifestations en Iran après la mort de Mahsa Amini suite à son arrestation par la police des mœurs. Il s'agit d'une colère généralisée, nous dit Fariba Ashtroudi, écrivaine et journaliste iranienne. Nous l'écouterons. L'Égypte a été le premier client de l'industrie française d'armement à l'exportation en 2021. C'est ce qu'indique un rapport annuel présenté au Parlement français. L'Union européenne adresse une mise en garde contre toute attaque contre ses infrastructures énergétiques, cela après des fuites constatées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. L'invité de Pluriel hier soir était Marie-Charlotte Garin, députée écologiste de Lyon, membre de la NUP. Elle a notamment réagi à la forte augmentation des budgets pour les transitions écologiques et énergétiques, extrait de votre journal. La vague de contestation en Iran depuis la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme de 22 ans arrêtée à Téhéran pour port inapproprié de vêtements. La répression des manifestations à travers le pays a fait plusieurs dizaines de morts. Fariba Ashtroudi, écrivaine et journaliste iranienne, fait état d'une contestation généralisée dans tout le pays. Entretien.
C'était à prévoir, vous savez, c'est pas la première fois, évidemment, l'ampleur est énorme. Mais comme vous le savez, depuis 2009, il y a eu des soulèvements. Il y a eu 2009, la répression a été terrible. Pendant un certain temps, ces messieurs ont cru qu'ils avaient la situation en main. Après, il y a eu 2018, il y a eu 2019. À chaque fois, c'était pour des raisons différentes, en apparence. Mais le fond du problème reste que l'incurie de ce gouvernement, aucune proposition de sociétale, aucune facilité pour la jeunesse et des lois de répression, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de M. Raïsi, c'était à prévoir. Moi, j'ai vécu ces dernières années en Iran et je voyais ça. Je voyais que la colère montait et que la jeunesse, tôt ou tard, allait exploser. C'était à prévoir, mais évidemment, l'ampleur est énorme. C'était un meurtre de trop, d'ailleurs. Ça continue. C'est un refus total de la théocratie, parce que c'est la tête qui est visée maintenant, comme à chaque fois d'ailleurs. Les manifestants, les slogans sont très très radicaux. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas de mouvement vert. La jeunesse ne fait plus confiance à l'ensemble du régime, parce qu'ils ont été trahis deux fois par les réformateurs, avec M. Khatami, après avec M. Rouhani. Là, les jeunes sont échaudés et c'est compréhensible.
Régime qui, pour le moment, ne fait part d'aucun signe d'ouverture face à ces manifestations.
Non, j'ai lu un article aujourd'hui, je vous le cite parce que ça m'a vraiment interpellée. C'est de Fatemeh Fatima Soderi, mais en fait, c'est la fille de M. Khalkhali. M. Khalkhali, connu comme le boucher de Téhéran, sa fille l'a renié quelques années après la révolution. Elle a fait un scandale il y a quelques années. Bon, c'est une juriste. Elle a écrit un article, et le titre de l'article, c'est que le mur de Dieu s'est effondré pour toujours en Iran. Alors, le mur, évidemment, symbole du mur de Berlin, elle explique longuement à quel point, de toute façon, la femme a été la cible, la jeunesse, la femme. Mais tous les gens qui pensent autrement, ils n'ont eu que mépris, que dédain et que répression dans ce régime. C'est venant d'elle, avec le passé de son père, c'est très, très révélateur. Comme je l'explique également, c'est que la fracture n'est pas simplement entre la population et le régime. La fracture est au sein du régime. À la tête, il y avait une guerre de pouvoir entre les modérés, les réformateurs et la faction pure et dure. Maintenant, depuis un certain temps, cette fracture est au sein de l'armée, l'armée de la Révolution, l'armée régulière, mais au sein de l'armée, les gardiens de la Révolution également. La base, je veux dire, tous les Basidji ne sont pas des monstres, tous les Basidji ne veulent pas tirer sur leurs compatriotes. On a vu ça dans diverses manifestations, à telle enseigne que, il me semble que c'était en 2009, si je ne m'abuse, ou une des manifestations qui avait pris une ampleur, on disait que vraiment, il faisait appel à leurs mercenaires irakiens, syriens et libanais. Les gens entendaient parler arabe. Ce qui veut dire que les gardiens de la révolution, les Basidji persans, iraniens, ne voulaient pas tirer sur leur jeunesse. Donc la fracture est très, très, très profonde. Et là aussi, Moi, je reçois les communiqués des étudiants solidaires qui m'envoient tous les jours, qui font un travail remarquable. Ils envoient toutes les ONG, notamment l'association Montserrat Chloudy, qui nous envoie tous les jours la liste, les photos, les raisons d'arrestation des étudiants. Et effectivement, ils ciblent les étudiants activistes en premier, mais évidemment, ils ne font pas marche arrière parce qu'ils savent que s'ils cèdent, c'est la fin. En même temps, qu'est-ce qui va se passer? Soit c'est la répression brutale, ce que l'on craint, soit, mais la société civile est debout. Soit c'est effectivement la société civile qui va entamer une nouvelle étape, c'est-à-dire une grève générale. Et là, si le pays est paralysé, bon.
Un soulèvement populaire qui intervient dans un contexte économique très difficile, c'est aussi un élément important.
Oui, il ne propose rien. Entre la corruption, le népotisme, la disparité entre les multimilliardaires et 60% à 65% de la population qui vit au-dessous du seuil de la pauvreté, évidemment que c'est le tout. Il n'y a pas un aspect. Vous voyez, on dit la Chine, au moins l'économie, les Chinois sont devenus riches, ils vivent, c'est un pays dictatorial, mais la République islamique d'Iran, il n'y a pas un point où vous puissiez dire, effectivement, au moins là-dessus, il y a eu des avancées. Pas un seul, malheureusement, quand on fait le bilan aujourd'hui. Sauf, effectivement, c'est que la conscience populaire et surtout cette jeunesse est très, très éveillée. Le prix très élevé à payer. Mais c'est vrai que Maxime Rodinson me disait, c'est grâce au Mollah que vous allez avoir la laïcité de la base. Et ça sera le premier pays musulman laïque, mais une laïcité qui viendra de la population et pas imposée par le bâton, par le haut. Les femmes arrachent leur liberté aujourd'hui. À l'époque du Shah, et je ne veux pas, comparaison n'est jamais raison, on voulait donner une certaine liberté aux femmes, mais on ne donne pas la liberté. La liberté, il faut l'acquérir avec l'expérience. C'est ce qui se passe en Iran, évidemment à un prix extrêmement élevé. Et ce qui se passe de fascinant, c'est que, je pourrais dire, la grande majorité au moins de la jeunesse iranienne et des jeunes Iraniens sont devenus des féministes. Si les jeunes gens et les hommes n'étaient pas derrière ce mouvement, croyez-moi, ça ne prendrait pas cette ampleur. Femme, il y a un jeune homme qui la défend, soit le mari, soit le frère, soit le cousin, soit juste le camarade d'école ou de lycée ou d'université.
Cette colère exprimée par les manifestants est-elle le reflet d'une opinion majoritaire en Iran aujourd'hui ?
Ah, totalement. Écoutez, totalement. Moi, j'ai vécu là-bas. Je vais vous dire, cette colère est la mienne également. Cette colère est celle de la diaspora iranienne à l'étranger. Cette colère est celle des croyants, des vrais croyants, des authentiques croyants qui disent à cause des mollahs, ils ont sali l'islam. Cette colère est celle de beaucoup. Je tiens à le dire parce qu'il ne faut pas faire toujours des amalgames et des généralisations. Et celle de certains religieux, notamment des ayatollahs Ouzma, des grands ayatollahs iraniens, dont certains, depuis des années, critiquent en disant vous ne pouvez pas imposer, même le voile, vous ne pouvez pas l'imposer par la force et par la brutalité. Donc oui, c'est une colère généralisée. Même les petites villes, même les villages sont debout, sont en manifestation, ce qui n'était pas le cas de ces dernières années.
Fariba Ashtroudi, écrivaine et journaliste iranienne, elle est notamment l'auteur de Ali, la parole défendue aux éditions Éric Bonnier. Son site internet faribaashtroudi.fr est le site de l'association Mohsen Ashtroudi, moah.com. Le gouvernement espagnol a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur d'Iran en Espagne, une mesure pour protester contre la répression des manifestations qui se tiennent depuis la mort de Mahsa Amini arrêtée par la police des mœurs. Trois Palestiniens ont été tués par balles ce matin par les forces israéliennes. C'est arrivé lors d'un raid à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne a affirmé de son côté que ses troupes ont abattu deux suspects impliqués dans un certain nombre d'attaques récentes. morte. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a été nommé Premier ministre. Il devient ainsi, selon le décret du roi Salman, le président du Conseil des ministres. Mohammed Ben Salman était auparavant vice-premier ministre ainsi que ministre de la Défense. L'Égypte a été le premier client de l'industrie française d'armement à l'exportation en 2021. C'est ce qu'indique un rapport annuel présenté au Parlement français. Le pays a acquis l'année dernière 30 avions de chasse Rafale d'une valeur de 4,5 milliards d'euros. En Tunisie, le maire d'une localité du gouvernorat de Ben Arous a été brièvement placé en garde à vue après le suicide d'un vendeur ambulant. Un drame qui fait écho à la mort de Mohamed Bouazizi, le vendeur ambulant qui s'était immolé par le feu le 17 décembre 2010. Le maire de Mornag a été entendu par le juge d'instruction qui a décidé de le remettre en liberté pendant la durée de l'enquête. L'Union européenne adresse une mise en garde contre toute attaque contre ses infrastructures énergétiques. Une déclaration publiée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l'objet d'une réponse vigoureuse et unie. Selon ses mots, il s'exprime au nom des 27 États membres de l'Union. Cela après des fuites constatées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. L'Union européenne évoque un sabotage. Le chef de la diplomatie européenne, qui a aussi dénoncé les référendums d'annexion organisés par Moscou dans les régions ukrainiennes, il qualifie ces scrutins d'illégaux, aux résultats manipulés. Il s'agit, dit-il, d'une nouvelle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans un contexte de violation systématique des droits de l'homme. L'invité de Pluriel hier soir était Marie-Charlotte Garin, députée écologiste de Lyon, membre de la NUP. Elle réagit notamment à la forte augmentation des budgets pour les transitions écologiques et énergétiques. Marie-Charlotte Garin.
La Haute Autorité environnementale avait indiqué que la transition écologique n'avait pas été amorcée en France en 2019 déjà. Donc si en 2022, après l'été caniculaire que nous avons vécu, il y a eu une prise de conscience de la part du gouvernement, c'est une excellente nouvelle. Moi, je rappelle que la question du réchauffement climatique et de la crise de la biodiversité, ce n'est pas un sujet paillette. Donc moi, je suis ravie si demain, le gouvernement montre qu'il a pris conscience de l'urgence climatique. Ça, ce sera une excellente nouvelle.
Les Français ont totalement pris conscience de l'urgence cet été. Il y a eu un moment clé, vous pensez, cet été, avec les canicules qu'on a subies?
Nous sommes retournés sur les marchés au contact des Français et des Françaises à la rentrée. Et effectivement, vous voyez que partout où ils sont allés en France, il y avait cette prise de conscience. C'est là. C'est là et on le ressent dans notre chair.
Alors, l'association Négawatt a annoncé que pour réduire la consommation d'énergie de 10% de 2024, il fallait prendre un certain nombre de mesures, notamment, par exemple, l'arrêt des panneaux publicitaires. J'ai découvert qu'il y en avait 55 000 au total sur toute la France. Ça, c'est une décision qui peut être prise très rapidement.
Très rapidement. La ministre Runacher a dit qu'elle avait simplement appuyé sur le bouton. Donc j'ai envie de dire, chiche, on appuie sur le bouton, puisque c'est une mesure simple, c'est une mesure efficace. Et finalement, les panneaux publicitaires sont un peu une aberration et en décalage avec les enjeux de notre temps aujourd'hui.
Alors j'ai vu que le magazine Philosophie avait fait sa une pour le prochain numéro sur la sobriété. Aujourd'hui, les Français doivent s'approprier cette question de la sobriété. Ça n'est pas de la décroissance.
Je pense qu'on peut jouer, sur les mots et chercher en tout cas la formule qui fera le plus polémique et qui finalement nous plongera le plus dans l'inaction. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de tergiverser. Et si, quand on a une convention citoyenne pour le climat avec des citoyens venus de tout horizon qui sont en capacité de se mettre d'accord sur l'urgence d'une sobriété, c'est bien la preuve que les Français et les Françaises sont en mesure de comprendre qu'on peut agir et qu'on doit agir collectivement, mais attention, sans demander de manière disproportionnée aux personnes qui sont déjà les plus impactées. On revient à ce que disaient les gilets jaunes, quoi. C'est les petits payent petits et les gros payent gros.
Alors justement, Marie-Charlotte Garin, vous avez dit que vous aviez en tête les personnes les plus vulnérables. Et pour faire face à la crise énergétique, le gouvernement nous invite à la sobriété, moins d'électricité, moins de gaz. Est-ce qu'il est socialement juste d'inviter chacun à baisser la température à 19 degrés quand on vit, par exemple, dans une passoire thermique?
Mais je pense que les personnes les plus précaires, donc on a 12 millions quand même de Français et de Françaises qui vivent dans des passoires thermiques, elles n'ont pas attendu l'injonction du gouvernement pour baisser le thermomètre, puisque le thermomètre est cassé. Donc, il faut bien demander aux personnes qui polluent le plus, aux personnes qui, de toute façon, financièrement, moi si je suis une personne qui a beaucoup de moyens, et que j'ai, on va dire, pas de conscience écologique, mon thermomètre, je vais pas le baisser. Parce qu'on me le demande gentiment, puisque moi, la facture, je m'en fiche si elle augmente ou si elle baisse. Donc ça va être ça l'enjeu, c'est d'aller demander aux personnes qui n'ont aucun intérêt à baisser cette facture, de baisser la leur pour que les personnes les plus précaires n'aient pas à le faire, puisque c'est déjà le cas.
Je reviens sur la question de la sobriété, Marie-Charlotte Garin. Les écologistes parlent souvent d'éco-anxiété chez les jeunes, notamment les psychologues en parlent désormais, c'est admis. Et en même temps, chez les personnes les plus âgées, qui ont l'habitude d'un certain mode de vie, il y a une anxiété qui vient des injonctions liées au changement climatique. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qu'on qualifie parfois de boomers, qui s'inquiètent de voir finalement leur mode de vie régresser ?
Mais je leur dis que je les comprends. Mais moi, la nature et la source de mon engagement, c'est cette éco-anxiété. Et ce que j'aimerais aussi dire, c'est que ce changement qui peut nous faire peur, il peut être source en fait, d'un retour à l'essentiel et d'un retour à un mode de vie beaucoup plus sain et beaucoup plus en accord avec notre temps. Et il faut bien avoir en tête à nouveau que si, quand on informe les Français et les Françaises des enjeux, comme ça a été fait pour la Convention citoyenne sur le climat, ils peuvent comprendre la mesure de l'urgence, on peut le faire. Moi, j'ai confiance en la génération du dessus et les générations du dessus pour se dire on peut y aller et on peut changer les choses et tout ira bien.
Marie-Charlotte Garin, députée écologiste de Lyon, membre de l'ANUP, elle était l'invitée de Pluriel hier soir, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur radioorient.com. L'invitée de Pluriel à 19h et 23h sera Julie Garnier, conseillère régionale d'Île-de-France, oratrice nationale de la France insoumise. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient, il est 12h16, à 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.